Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, nous sommes en février 2025 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Drew et je suis accompagné de Lana. Bonjour Lana.
Bonjour.
Et nous accueillons Tanguy Gréban. Bonjour Tanguy.
Bonjour à tout le monde.
Nous allons parler de ton actualité Tanguy, mais nous allons commencer par notre traditionnel fil rouge de Cannes. Alors, pour toi Tanguy, quel est l'as d'or du jeu pour rire avec les potes?
Par rapport au jeu de cette année ou en règle générale?
Non,
en
règle n'importe générale... quel jeu. Tu es le juré de ton as d'or.
Okay. En fait, je m'en fous. Du moment que les gens autour de la table ont envie de jouer à ce jeu-là, ça va être très bien, c'est tout. S'ils ont envie de jouer au Skijo ou au Monopoly ou à ce qu'ils veulent, bah, tant mieux, du moment que ça les amuse. Je pense que les gens autour de la table ont plus d'importance que le jeu en lui-même.
Quel est l'as d'or du jeu qui t'a fait le plus fumer le cerveau?
Wow, fumer le cerveau? Je fume pas du cerveau.
C'est pas du type cerveau. De jeu que tu
non, aimes. Non, non. Je suis moi pas spécialement poussé sur le jeu expert. J'aime bien ça, mais j'ai toujours eu au niveau de ce que je devais faire au niveau professionnel, c'est soit en tant que ludicaire, soit en tant qu'éditeur. C'est pas les jeux que je dois tester en priorité pour connaître l'actualité, donc je le fais par plaisir, mais c'est pas les jeux que je joue tout le temps. Et comme j'ai beaucoup de choses à jouer en familial, ben voilà, j'en joue moins. Mais donc non, je fume pas trop du cerveau. Ça va,
c'est bon.
Je ne donne pas d'as d'or pour des jeux qui viennent fumer du cerveau.
Quel est ton as d'or du jeu auquel tu ne veux plus jamais rejouer?
Wow.
Ça peut être un jeu dont tu as fini la campagne, et auquel cas tu le remballes.
Non, parce que les Pandémies Legacy, par exemple, j'ai fini, je les ai refaits, donc avec plaisir. Je les avais testés en beaucoup de joueurs. Les premières fois qu'on les avait fait, d'ailleurs, c'était dans le cadre d'un événement où on les avait fait d'affilée. Donc on avait fait j'ai fait deux Legacy comme ça d'affilée sur 48 heures, voire même 3 jours complets. On faisait toute la campagne. Et on était jusqu'à 8 ou 9 autour de la table. Donc on partageait les rôles. Et puis j'ai passé un super moment, et puis je les ai refaits. Mais à ce moment-là, je les ai refaits à 2 joueurs. Parce qu'on m'a dit, oh, c'est pas bien 2 joueurs. J'ai trouvé ça très très bien. Donc voilà. Donc même ça ne me dérange pas de refaire un Legacy. Des jeux que je ne rejouerai pas, j'en ai pas qui me viennent comme ça. Mais normalement, je suis assez curieux. Et puis même chose, c'est comme je disais tantôt. Donc s'il y a des gens, du joueur autour de la table qui disent, oh tiens, on joue à ça. Bon, ça va, vas-y, sors-le, on va rigoler. C'est pas grave. Voilà.
Quel est l'as d'or du jeu auquel tu penses encore 3 jours après la partie?
Là, Daybreak m'a vraiment bien plu dans ce qu'il y a cette année. À ce stade-ci, je ne sais pas encore s'il va gagner ou pas. J'espère qu'il va gagner parce que c'est un jeu... On en voit beaucoup passer. C'est-à-dire qu'en sourcing, on nous présente des jeux sur des thématiques écologiques et on se dit « Oui, mais ça peut être rébarbatif, c'est difficile, c'est peut-être très bien, mais ça ne va pas être vendable. » Et puis j'ai testé ça, j'ai trouvé ça brillant en fait parce que le jeu, je suis pris dans ma partie et je remarque après qu'en plus, le discours qu'il y a derrière est extrêmement intéressant et qu'il est justifié à plein d'égards, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup de choses où je me dis ah ouais, mais il y avait ça dans le jeu aussi en fait. Puisqu'on se rend compte certaines problématiques écologiques, quelque chose qui me touche, on se rend compte que le jeu en fait parle de ça et que ce qu'on joue parle de ça de manière vraiment très intelligente. Et donc voilà, ça. Et alors un jeu aussi qui m'a beaucoup touché vraiment très fort, c'est This War of Mine. Et j'ai vraiment eu dedans certaines, je vais pas spoiler, mais parce que vous pourriez tomber ou pas tomber dessus, mais certaines anecdotes ou certaines petites histoires dans le jeu où je me suis dit waouh, j'aurais jamais imaginé ça quand on pense à des conflits, parce qu'on a la chance de vivre dans des pays qui sont pas en conflit armé direct, mais dans certains conflits parce que ça a été fait par des gens qui ont vécu ce genre de choses, et de dire ah ouais, ça j'avais quand même jamais imaginé que ça pouvait se passer comme ça avec ce genre, voilà, ça, c'est vraiment des jeux qui rayonnent en dehors, le thème rayonne en dehors simplement de la partie. Et donc voilà, ça c'est des, je le redonne, des as d'or à This War of Mine et à Daybreak.
Et enfin, dernière question, quel est pour toi l'as d'or du jeu le plus moche?
Le plus moche
peut être très bien, mais bon sang,
ouais,
qu'est-ce qu'il est moche.
Mais Skijo quand même, c'est pas, je crois que c'est difficilement entre Skijo et Caverna, j'hésite, mais vraiment c'est genre Caverna, donc un des spin-off d'Agricola, enfin c'est un jeu dérivé. Ça c'était vraiment très laid, la tête de ce mouton en gros plan, je suis désolé pour l'artiste qui a fait ça, mais il a pas été aidé à mon avis par le surzoom de l'éditeur. Ça devait pas être fait pour être si petit, ou alors c'est raté. Mais ça, et Skijo, c'est... Ouais, je comprends pas. Enfin, si je comprends. Enfin, voilà, c'est parfait.
Alors, je crois qu'on avait mis dans nos notes hors Skijo.
Mais
je
crois que Caverna, alors.
Non, mais je crois qu'on va pouvoir cocher un Skijo parce que tout le monde le cite quand même.
Mais je pense même que. Enfin, pour moi, je pense que Caverna est pire, en fait. Ouais. Je trouve pire que Skijo.
Merci beaucoup pour ce fil rouge. On va maintenant attaquer sur l'interview. D'abord, parlons un peu de toi. Comment es-tu arrivé dans le monde du jeu ? Que fais-tu aujourd'hui ? Quel style de joueur es-tu ?
Alors, je suis arrivé par hasard, je pense, comme toutes les personnes qui travaillent dans le monde du jeu. Je suis arrivé par où ? Mais je suis joueur de base, en fait. Ça fait vraiment partie de ma nature. J'ai toujours joué, j'ai toujours aimé créer des jeux. Ça me semblait tout à fait naturel. C'est après, avec le recul, qu'on se dit, tiens, tout compte fait, c'est tout le monde qui n'invente pas ou crée des jeux tout le temps. Mais voilà, moi, ça fait partie de ma nature. Et je suis... L'explosion est venue par Catan. En y jouant, ça devait être un peu après sa sortie, à la fin des années 90, et vraiment un plaisir que je ne retrouvais pas dans les jeux auxquels je joue habituellement. Quoique, au niveau jeu de société, donc je suis un joueur aussi de Magic et de jeux de rôle, beaucoup. Et donc le jeu de rôle, là, il y a des émotions, il y a une force qu'on retrouve dans peu de jeux. Je trouve que le jeu de rôle est quand même un des rois des jeux. Pour ceux qui n'en ont pas fait, faites du jeu de rôle, c'est très très bien. Et donc là, dans du jeu de plateau, ben, j'avais autour de moi, je faisais pas partie des personnes qui connaissaient des boutiques ou des choses comme ça, donc de toute façon à l'époque il n'y avait pas grand chose, pas vraiment de boutique spécialisée, un petit peu quand même, enfin non, pas vraiment spécialisée, c'était un rayon en plus du rayon enfant ou quoi que ce soit. Et là, un ami m'a fait tester un Catan et j'ai trouvé ça excellent, la négociation, enfin voilà, j'ai vécu quelque chose. Le lendemain j'ai été acheter tout ce que je trouvais en Catan, et puis j'ai essayé plein d'autres choses, etc. Et le saut professionnel s'est fait petit à petit. J'ai travaillé dans une boutique qui vendait tout ce qui était comics, donc bande dessinée américaine, toys, objets de collection, etc. Et là, j'ai pris des jeux que je vendais aux clients, en dehors de tout ce bric-à-brac de geek, on vendait des jeux. Les premiers petits jeux, enfin du Magic évidemment, et les premiers petits jeux de Asmodée, les jeux apéritifs, donc du Fantasy, du Il était une fois, du Loup-garou, tous ces jeux-là. Et on avait un petit rayon comme ça, pas très grand, 30 jeux, donc c'est quasi rien, mais j'en vendais à l'époque. Et puis comment c'est arrivé? C'est arrivé avec une... j'ai eu des commerces, plusieurs commerces, celui-là et d'autres, et c'est mon ex-belle-sœur qui est un jour venue, qui avait perdu son travail, qui a dit tiens, une fois qu'elle s'est remise d'aplomb, dit tiens, j'ouvrirais bien un magasin. Je dis ouais, c'est bien, on pourrait peut-être ouvrir un magasin ensemble. Et elle a dit j'ouvrirais bien un magasin de jeux en bois, de beaux jeux pour enfants et tout ça. Je dis ok, moi c'est pas trop mon truc, mais par contre il y a un truc là, je fais beaucoup, c'est du jeu de société, et je pense quand même que je sens que ça remonte bien. Il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est vraiment ça pousse bien. Début des années 2000, 2005, 2006. Et puis, on s'est dit, ouais, pourquoi pas. Et elle a eu une idée de faire ça à Louvain-la-Neuve, qui est une ville en Belgique, qui est une ville particulière parce qu'elle est très récente. C'est une ville qui a grandi dans les années 70, qui a été construite sur des champs. Une ville universitaire pour des étudiants. Et puis, après ça, des gens qui habitent, du commerce, etc. Et on s'est dit, ce qui était une mauvaise idée, bah ouais, c'est super, il va y avoir plein d'étudiants, ils vont nous acheter plein de jeux. En fait, les étudiants, ils n'achètent pas des jeux.
Ils n'ont pas les sous.
Soit ils ont un peu de sous, ils achètent du Magic et voilà, et encore. Mais par contre, autour, il y avait l'université, donc il y avait plein de geeks, il y avait plein de gens qui aiment bien le jeu de société. Il y avait des habitants qui... C'est un esprit assez particulier, la ville, village, là, de gens assez ouverts, assez cultivés, etc. Donc le jeu, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. On est arrivé au moment du poker. Et donc on a tout de suite misé sur le poker, on s'est dit il y a une vague, il y a quelque chose à faire. Et on nous a dit non, ça va passer, on n'investissait pas de l'argent là-dedans, et on a vraiment beaucoup investi là-dedans, on a été chercher des produits où on pouvait, un peu dans tous les pays. Et donc on s'est retrouvé avoir un des points de vente où de la Belgique, vous pouviez trouver des tables de poker, des pokers marqués, des jeux de cartes particuliers, etc. Et pas juste la petite mallette cheap. On avait du plus cheap au plus cher pour tous les goûts, quoi. Et donc ça a très bien marché. Ça a aidé à notre boutique à nous faire connaître. Et on a fait quelque chose de particulier aussi, c'est que on venait vraiment à un esprit de spécialiste. C'est-à-dire que c'est pas un magasin de jouets où il y a un petit peu de jeux en bas pour les demi-geeks. Il y a vraiment, c'est un magasin pour adultes où on a des jeux pour les joueurs, où on respecte et on connaît les jeux. Et il y a un petit rayon jouets pour enfants s'ils veulent, pour offrir leurs enfants. Mais c'est pas ça qu'on fait principalement. Deux étages, 100 mètres carrés de vente, 100 mètres carrés de tables, de chaises, distributeurs de boissons. Vous pouvez venir toute la journée jouer gratuitement. Il y avait une ludothèque, il y avait du jeu. Et donc vraiment la moitié de l'espace, les étudiants y descendaient, ils disaient bonjour. Quand ils disaient bonjour, on les voyait parce qu'ils allaient à la toilette de temps en temps. Mais sinon, voilà, ils jouaient toute la journée à des jeux, ils essayaient des trucs, et voilà, c'était très bien comme ça. Et donc, ça nous a aidé à venir vraiment à beaucoup grossir comme boutique. On était là juste au bon moment et donc on a été voilà, ça a plu, c'est ça qu'il fallait en fait. On s'est tout de suite spécialisé, on essayait de jouer à tout. C'est devenu très difficile, donc maintenant depuis quelques années c'est quasi plus possible, enfin ce n'est plus possible. Et on prenait tout surtout, tout ce qui sortait. Et on prenait un peu d'anglais, donc c'était énorme. Maintenant, c'est plus possible, il faut faire une sélection. Mais quand même, la boutique continue à prendre quasi tout ce qui sort. Alors, il y en a certains qu'on prend par centaines et d'autres qu'on prend par un ou deux, mais au moins, on en prend un ou deux. Et donc, je me souviens, les distributeurs, quand je suis venu, je dis, je veux un de chaque. Mais tu es fou, prends pas ça, c'est mauvais, prends pas ça, c'est mauvais, ça, on vend pas. J'en veux un. Et nous, on a mis ça comme un budget publicitaire. Donc, j'ai des milliers d'euros qui sont partis dans des jeux que j'ai dû solder ou donner ou quoi, mais c'est pas grave. Quand quelqu'un rentre dans un magasin, la première fois qu'il va rentrer, si les étagères sont vides, il va pas revenir. Par contre, s'il vient et qu'il a dit « mais j'ai jamais vu ce truc-là, et ça j'ai pas vu », et vous pouvez lui dire « mais l'achète pas, c'est mauvais », c'est mieux comme pub que d'avoir un truc vide en disant « je peux vous conseiller autre chose ». Et puis surtout, le client, vous pouvez le commander, on sait ce que ça vaut. Le client n'aime pas commander, et puis s'il commande et qu'il vient pas chercher, il se sent gêné, donc il vient plus dans votre boutique. Donc moi, je préfère avoir ça dans la boutique, tu prends pas comme tu veux.
Tu parles toujours au présent, cette boutique existe toujours.
Cette boutique, c'est une case départ, elle existe toujours. Je leur fais de la pub, c'est une très chouette boutique, vraiment. On l'a revendue à un passionné de jeu qui a continué à la faire croître. Et donc, oui, ils sont plusieurs à travailler là. C'est vraiment une grosse boutique avec toujours une salle de jeu, même si maintenant il y a des jeux en vente aussi en bas parce que l'espace augmente par rapport à ça. Mais la boutique continue toujours à très très bien marcher, oui.
Donc un passé de ludicaire d'abord.
Oui, ludicaire. Et pendant ce temps, j'étais amené à... J'avais rencontré Thomas et Cédric un peu avant, donc les créateurs, les fondateurs de Repos Productions. On était en Belgique, on a fait du jeu de rôle grandeur nature après ensemble. Enfin voilà, on était potes. On les rencontrait dans les festivals, ils avaient une petite table... Les premiers stands qu'ils ont eu, peut-être le tiers de votre stand d'ici, ils avaient une table avec des sombreros, ils hurlaient à Essen pour essayer de faire venir des gens, et on les regardait bizarrement, et petit à petit, c'est devenu une très grosse société. Et petit à petit, en tant qu'éditeur, ça marche mieux que ce que peut marcher une boutique. Mais vraiment, les deux affaires ont grandi et on a travaillé ensemble parce que j'ai fait un petit peu de consultance pour eux par rapport aux boutiques. Donc, ils ont très vite eu l'envie de communiquer aux boutiques, de voir comment communiquer directement avec la boutique sans passer par le distributeur d'une certaine manière. Et qu'ont besoin les boutiques ? Qu'est-ce qu'elles ont besoin ? On veut leur dire plein de choses, mais elles n'ont pas le temps. Comment est-ce qu'on dit quelque chose à une boutique s'il n'a pas le temps ? Enfin voilà, s'adapter par rapport à ça. Et par hasard, j'ai fait du sourcing pour eux aussi. Je leur ai proposé un jeu que j'ai vu. Je dis, ça c'est super, vous devriez peut-être jeter un œil. Ils ont vu, je crois que le lendemain ou le surlendemain, ils signaient le jeu. Ils ont été super généreux. Enfin, j'en parle, c'est pas secret, mais ils ont été super généreux parce que moi, c'est juste des amis. J'ai dit, tiens, ce jeu pourrait être bien. Ils ont mis un petit pourcentage. Et donc, Anouk et moi, tous les ans, maintenant, on reçoit un petit pourcentage pour la sortie de ce jeu parce qu'ils ont dit, c'est sympa à vous, vous avez trouvé le jeu et tout. Je trouvais ça super classe. Après ça, ils m'ont carrément engagé. Donc, pendant cette période-là, j'étais engagé comme sourceur, donc on se baladait sur les salons, on étudiait les 1800 jeux qui allaient sortir, on regardait un peu ce qui allait être intéressant, on fonçait sur les stands dès le premier jour, les premières heures, dès qu'on pouvait, même acheter des boîtes avant même que le truc soit ouvert en disant « Ok, votre jeu, là, on voudrait y jouer ». Et quand on trouvait ça suffisamment super, on le testait, on le faisait tester à Cédric et Thomas, et s'ils trouvaient ça bien, ils essayaient de signer le jeu. Parce que Repos a eu cette tradition de prendre des jeux existants, de racheter les droits. Ils ont fait ça pour We Are The World, qui est devenu Just One. Ils ont fait ça pour Time's Up, pour When I Dream. Enfin, il y a plusieurs jeux qui ont été faits comme ça. Et donc, il y a cette chose de, si on trouve un jeu super, et que les autres se disent, tiens, notre jeu, on sait pas, on n'a pas beaucoup de distribution, quoi. Et voilà, on le refait avec eux, et on le ressort, etc. Et ça a eu du succès. Et donc, voilà, j'ai travaillé avec eux pour ça, différentes manières. J'ai organisé des tournois aussi, des choses comme ça. Et puis, là, 15 ans de ludothécaire, un petit peu de coédition avec Sit Down pour Sushi Dice. Didier, qui est adorable, qui est un client du magasin, il me dit, tiens, regarde, c'est le jeu sur lequel on travaille, mais je me pose des questions, ceci. Je dis, c'est chouette, je veux pas qu'on le fasse ensemble, je paye la moitié. Enfin, voilà. Et donc, on a financé à moitié-moitié. On a fait ça ensemble, Sushi Dice, et puis on a fait Bad Bones, et puis d'autres projets qui se sont pas faits. Et là, j'ai pu toucher un peu à l'édition, au développement, avoir ça, prendre beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis, les Repos Productions, en fait, quand ils ont vendu à Asmodée, ils arrêtaient. Donc, ils voulaient créer leur maison de leur côté. Ils voulaient chacun faire ça de leur côté. Et Et puis, il fallait trouver quelqu'un pour remplacer, pas pour diriger la boîte, parce que ça, il y avait quelqu'un qui était là historiquement, Thomas Avermaet, et donc qui allait diriger la boîte. Mais il fallait quelqu'un pour s'occuper des équipes de développement, donc ce qu'on appelle des vitaux chez nous, développement et édition, c'est-à-dire choisir les jeux qu'on va faire. Et puis faire tous les choix éditoriaux jusqu'à ce que le jeu soit prêt à être passé aux autres équipes, donc pré-production, production, tout ça. Et puis voilà, bah, ils m'ont proposé le poste. J'ai pas pu refuser l'offre, donc on a revendu la boutique avec mon associé tous les deux. Et là, ça fait bientôt 6 ans que je suis là.
Donc c'est ton actualité.
C'est mon actualité. Voilà, c'est ça. Et donc là, je travaille avec une super équipe de chefs de projet, graphistes, une assistante, et ensemble on fait tout le travail créatif sur les jeux. Et puis alors il y a tout le reste des équipes Propos et Asmodée qui s'occupent de toute la suite. Et c'est beaucoup de boulot. Et donc voilà, notre actualité, c'est For a Crown ici. C'est Mythicals qui va sortir, Toy Battle. On travaille sur des jeux jusque 2027, je pense. On a des projets jusque 2027. On a plus d'une quinzaine de projets en cours. Voilà.
Et comme tu t'ennuyais, t'as décidé de partir sur un autre projet.
Ouais, j'aime bien les choses. Je suis du genre à m'embêter à un moment. C'est-à-dire, j'aime bien découvrir des choses. J'adore apprendre tout sur un sujet et découvrir le sujet et me plonger dedans. Et là, il n'y a pas d'école. Il y a des écoles de formation en ludopédagogie, pour ce qui est le travail de ludothécaire, par rapport au jeu, des formations universitaires. Mais perso, moi, je voudrais une formation purement pratique, vraiment intégrée dans les métiers du jeu, dans le métier de l'édition, et donc qui ne sont pas de le classement des jeux et comment parler des jeux, etc. Mais ok. Comment est-ce qu'on travaille avec une usine? Comment ça fonctionne? Les grammages de papier, le game design. Enfin, vraiment, il y a plein de choses très techniques et très précises à faire pour un jeu qui sont autres que simplement le game design. C'est un objet aussi, un jeu. Et puis, il y a des contrats, il y a des contraintes, il y a des circuits, il y a plein de pays à intégrer là-dedans et tout. Donc, si on fait des jeux pour l'international, faire les jeux pour la France, c'est quelque chose, mais pour qu'ils aient un vrai succès et qu'on puisse amortir tous ces frais, il faut les faire en international, et c'est d'autres choses. Un Japonais, un Américain et un Belge et un Français veulent pas les mêmes choses, pas de la même manière. Et donc, si on veut que ça puisse se vendre et tout, et ça, Repos a toujours fait ça, Repos a toujours travaillé en international, il a toujours développé et vendu ses jeux international. On a toujours un minimum de 7-8 langues quand il y a un jeu, mais donc c'est des dizaines de pays, mais vraiment on a toujours été implanté par rapport à ça, et c'est très important en fait pour amortir et pour pouvoir lancer un jeu.
Donc on parle de Board Game Campus, donc une Board école Campus, que ouais. Tu as décidé de créer.
C'est ça.
Du côté de Bruxelles.
C'est à Bruxelles.
Voilà,
oui.
Et qui pour l'instant n'est pas encore ouverte, qui va ouvrir prochainement.
Donc les inscriptions sont ouvertes, on a déjà 5-6 élèves qui se sont inscrits. On a tout le programme, le planning, si vous allez voir sur le site avec les intervenants, professeurs, toutes les personnes qui vont venir par rapport à ça. Les locaux, c'est un petit peu tôt, on est en négociation, mais ça sert à rien de louer des locaux maintenant. On fait les déménagements à partir de juillet août. Et moi j'arrête en juin, j'arrête chez Repos. Et à septembre, c'est la rentrée des classes, c'est parti et on va faire des jeux pendant un an.
Donc tu le disais, cette création vient d'un manque aujourd'hui de formation correspondante. C'est quelque chose que tu as identifié dans ton travail de RepoProd. Tu cherchais à recruter et tu n'as pas trouvé. Ou comment ça se passait? C'était que de la formation interne, que du turnover entre éditeurs?
C'est ça. C'est un constat en fait. C'est quand je suis arrivé, je me suis senti, c'est le côté imposteur, en disant mais voilà, on vient de me donner la direction d'une équipe qui va faire des jeux. J'ai un peu travaillé là-dedans, mais qui suis-je pour savoir comment faire des jeux? Et je suis arrivé en disant, ok, c'est quoi le process? Qu'est-ce que vous avez mis en checklist? Enfin, ils savaient que je suis quelqu'un de très très organisé, un peu robotique, quoi. Donc j'ai dit, ok, comment est-ce que vous faites? Et on fait les jeux. Ok, oui, mais non, mais il y a un process. On commence par ça, puis on fait ça. Si. Donc voilà, il fallait mettre tout ce process sur pied et process en co-création de, ok, ah non, ça c'est pas bien, ça on va changer, qui est constante évolution. Mettre ça sur pied pour que constamment on apprenne de nos erreurs, c'est ça. Des erreurs, on va en faire tout le temps. Je pense que la différence entre un succès et un insuccès, c'est de pouvoir apprendre de ses erreurs pour essayer de pas refaire au moins les mêmes erreurs, pour éliminer au fur et à mesure les choses qui sont un petit peu stupides. J'avais appris beaucoup de choses de Thomas et Cédric au fur et à mesure en les côtoyant. Ils me disaient, oh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise ici? Ou on a fait ça pour ce jeu, on n'aurait jamais dû faire ça. Donc voilà, ça m'apprenait beaucoup de choses. Et donc moi aussi, j'ai fait mes bêtises. Et donc petit à petit, apprendre ça. Et je me dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas cette transmission par rapport à ça. Et ça, la volonté de faire la transmission, c'est une volonté personnelle. Parce que j'aime ça. J'aime avoir des stagiaires. J'ai fait des ateliers, des stages et tout. Et je m'éclate en fait à faire ça. voilà, je pense qu'on arrive à la cinquantaine, les enfants partent et on se dit bah c'était trop bien en fait, on a passé des trop bons moments et j'ai envie de continuer ça. Je vais pas dire que c'est mes enfants, c'est pas ça, mais il y a vraiment cette envie de transmettre qui est un plus grand plaisir pour moi maintenant, personnel, de transmettre à quelqu'un que de le faire moi-même.
Tu veux transmettre à des élèves, donc qui seront des futurs éditeurs?
Tout à fait. Ouais. Futurs éditeurs, auteurs, autrices. En fait, c'est un milieu particulier, c'est un secteur particulier, parce qu'il y a des très grosses entreprises comme Asmodée, avec dedans des boulots hyper spécialisés, hyper précis, et c'est vraiment une chance de pouvoir travailler dans des équipes comme ça, parce qu'on a vraiment des gens qui se spécialisent de plus en plus et tout, vraiment des experts. Et puis aussi, et c'est une chance aussi, c'est vraiment génial, on a des entreprises de une personne, en fait, qui font les jeux tout seuls. C'est ça aussi l'édition. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ça va faire des projets différents, des manières de faire des projets différents. Et donc, ce que j'ai envie de transmettre, c'est pas de « on fait comme ça ». Jamais. C'est pas ça. C'est expérimenter. Allez-y. Vous aimez bien être le maillon d'une chaîne, travailler avec d'autres personnes et vous êtes hyper spécialisé dans un domaine. Allez dans des entreprises comme ça. Vous allez pouvoir vous éclater et vous allez pouvoir faire ça. Vous voulez tout faire tout seul, tout maîtriser, faire vous-même vos illus, votre game design, etc. Pas de problème. Il y a moyen d'en vivre et tout. Ça dégagera un salaire. Il faut pas vous tromper sur vos premiers jeux et tout. Mais voilà, il y a moyen de faire rouler quelque chose. Donc, il faut pas essayer de formater. Il faut vraiment laisser se découvrir et surtout enlever le formatage. Parce que beaucoup viennent dans les milieux de l'édition et tout en disant « c'est comme ça qu'on fait, j'ai entendu une interview de machin et c'est comme ça qu'on fait ». Mais machin fait comme ça, mais il y en a d'autres qui font autrement. Et c'est pour ça que je veux beaucoup d'intervenants. Il y a 30-40 intervenants et la manière de faire un jeu d'un Théo Rivière ou d'un Bruno Catalin ou d'Antoine Boza, ils travaillent de manière différente. Et il n'y en a pas des meilleurs. Il n'y en a pas un qui vous dira que c'est le meilleur. Et donc ça, c'est très important qu'ils puissent exprimer la manière dont ils travaillent, que ce soit par rapport, donc ça c'est par rapport au métier de création, mais il y a tous des éditeurs, il y a des distributeurs, il y a des experts en IA, une experte en IA, il y a de tout en fait. Il y a des usines, des personnes qui travaillent dans des usines. Il y a Jean-François Gagné, il travaillait dans une usine à l'époque quand ils ont fait les premiers Legacy. Donc c'est génial de pouvoir apprendre mais quand je dis les risques Legacy, quoi. Comment est-ce qu'on fait un jeu pareil? C'est technologiquement, c'est pas facile en fait. Hein. On a l'impression qu'il y a qu'à, mais ce qu'on fait nous toute la journée, ce sont des choix qui ont chaque fois un coût. On sait qu'on va se faire avoir dès que le coût est trop cher. Si c'est trop bas, on va dire oh ben en plus c'est pas assez cher. Donc de toute façon tout est toujours mauvais, mais donc on doit faire tous ces choix toute la journée pour faire le jeu le meilleur possible, en sachant que on a de grandes chances de ne faire que des échecs. C'est notre boulot, c'est de faire des échecs en fait, et de temps en temps avoir essayer d'avoir des jeux qui se rentabilisent, ça c'est bien, et de temps en temps avoir des perles qui vont tenir pendant des années, qui vont permettre de faire de l'expérimentation sur d'autres. Mais donc ça s'apprend en fait à gérer l'échec, à gérer les essais et essayer de faire le moins d'erreurs possible pour se rapprocher de la vision qu'on pourrait avoir.
Vous avez tout un pan juridique, financier, business plan, ça couvre très 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 large.
Alors, au niveau juridique, on a un expert en droit d'auteur qui va venir parler de ça et tout. Et, moi, je vais parler de ce que je connais aussi. On va parler des contrats, de ces choses-là. Mais même chose, il n'y a pas une manière de faire. Il y a plein de manières de faire. Mon but, c'est plutôt de donner des outils et d'ouvrir des portes. C'est de dire, OK, ne vous dites jamais que moi ou quelqu'un d'autre a la bonne solution. Réfléchissez, posez des questions, cherchez, essayez, trouvez les réponses par vous-même, etc. Parce que je pense qu'on a besoin de modularité, on a besoin de souplesse pour l'instant. Dans un milieu, le secteur du jeu qui se développe de manière particulière, qui pour l'instant traverse une période très particulière avec des éditeurs qui s'en sortent pas, avec d'autres où ça marche bien. Enfin, c'est assez particulier ce qu'on est en train de vivre au niveau de la distribution, l'édition, etc. Et donc, voilà, c'est une période de transition, c'est une période particulière, mais ce n'est que ça. On n'est que dans des successions de périodes où il faut constamment s'adapter en disant « mais oui, c'était comme ça avant, mais c'est plus comme ça maintenant ». À tous les points de vue, les jeux sont de plus en plus simple aussi d'une manière, ils sont de mieux en mieux expliqués, le matériel est de plus en plus extraordinaire et particulier, etc. Il faut ressortir les illustrations, il y a 10 ans on aurait pleuré de voir la qualité des illustrations actuelles par rapport à ce qu'il y avait avant, où on était baigné avec des illustrations, comme on a parlé de Caverna, mais des illustrations à l'allemande, on va dire, c'était ça, et puis c'était rien d'autre. Maintenant on a des bijoux, on a vraiment des bijoux quoi. Et donc je pense que d'apprendre cette souplesse et constamment à avancer et à se remettre en question est plus intéressant que de dire on va faire comme ça. Ensuite c'est assez international, donc pour l'instant dans les inscrits, mon premier inscrit était canadien, j'ai des belges, j'ai des français, voilà, les problématiques sont différentes, s'ils sont d'une petite société aidée par la région ou s'ils sont dans une grosse société, enfin il y a des choses assez différentes par rapport à ça. Donc c'est pas vraiment sur la création d'entreprise, parce que c'est plutôt, je pense qu'ils commenceront plutôt par être chef de projet, game developer, ou créer eux-mêmes des autres des projets comme un game designer. Et puis il y a aussi, il faut pas négliger tous les métiers qui pourraient se spécialiser dans le jeu, c'est-à-dire quand nous on fait une on met une offre d'emploi pour avoir un ou une graphiste, on a ça dépend des fois, mais on a déjà eu des 200-300 demandes. Évidemment, on aimerait bien si possible avoir des gens qui s'y connaissent en jeu, c'est intéressant pour nous parce que on parle le même langage. Quand on va leur pour leur dire tiens, c'est pas assez lisi parce qu'il y a ça, regarde, fais comme dans tel jeu. Quoi? Quel jeu? J'aimerais pouvoir lui dire Agricola, il sait ce que c'est, lui dire quel que soit le nom que je cite, que la personne sache ce que c'est. Et donc ça, il y en a quasi pas. Des gens qui disent oui, j'adore jouer, j'ai déjà joué à votre Time's Up, j'aime beaucoup. Oui, ok, mais on fait d'autres choses. Et donc avoir des graphistes qui ont pu être formés à en plus de leurs études de graphisme et qui ont pu voir les particularités propres au jeu par rapport au boîtage, par rapport aux règles, par rapport aux couleurs et à toutes ces choses-là. C'est pas un produit comme un autre, le jeu. En tout cas, si on veut se professionnaliser, il faut qu'on le traite autrement que comme une boîte de céréales. Et c'est pour ça que je pense que pour beaucoup de métiers, comme les métiers du marketing, par exemple, on engage énormément des gens très spécialisés dans le marketing, mais souvent, les gens ne sont pas des fanats de jeux de société. Et donc, petit à petit, ils jouent à des jeux, ils essayent des choses le soir, entre eux et tout. Mais pour rattraper une culture ludique le soir, entre les copains qui sont peut-être pas joueurs et tout, c'est chaud, en fait. Avant d'être au niveau de personnes comme peut-être vous ou moi qui ont joué depuis 20 ans, quasi tout ce qui sort, en tout cas les grands prix, les choses comme ça et tout, il faut quand même du temps. Donc à un moment, il faut combler le gap. Il faut des jeunes générations qui ont pu jouer à vraiment tout ce qui compte, avec des types différents, des mécaniques différentes, etc. Et donc c'est une partie importante de l'école aussi, c'est de jouer, mais de jouer de manière professionnelle.
Et justement, à qui s'adresse cette école? Parce que tu dis, elle va avoir une formation des cours assez larges, que ce soit à partir d'auteurs ou de personnes qui viennent d'usine. Du coup, qui y va? Est-ce que quelqu'un qui veut faire de l'autorat trouvera son compte? Est-ce que quelqu'un qui veut travailler plus dans la fabrication trouvera son compte?
Oui, je pense, en fait, personnellement, que tous les métiers, en règle générale, je pense tous les métiers, ont un avantage à savoir, quand vous vous mettez dans une chaîne, à savoir ce qui se passe avant et après. Donc, si vous êtes une boutique, vous ouvrez une boutique, ouvrir une boutique de jeux si vous n'êtes pas joueur et de savoir ce que va vouloir acheter le joueur, ça n'a pas de sens. Ça va être difficile. Et si vous êtes une boutique et que vous savez comment fonctionne votre distributeur, ça va être mieux pour essayer de lui soutenir des trucs ou négocier des prix avec lui si vous savez comment fonctionne la distribution. Et peut-être lui susurrer des choses auxquelles il n'a pas pensé en disant « Tu sais, tu pourrais peut-être faire ça, il y en a d'autres qui le font, etc. » Et même chose, si vous êtes distributeur, d'avoir travaillé dans l'édition et de savoir qu'il suffit pas de dire « Oh là là, j'aurais aimé le jeu plus bleu pour qu'il devienne bleu » et que c'est pas si simple que ça, etc. En fait, on a tous intérêt à apprendre de ce que les gens qui font dans une chaîne font avant nous ou après nous. Parce qu'on peut faire les choses mieux, parce qu'on sait ce qu'ils attendent de nous et on sait comment leur parler. Et donc moi, je voudrais qu'ils soient assez réactifs par rapport à ça et que de l'auteur jusqu'au joueur, ils aient en tout cas discuté, écouté les problématiques des uns et des autres par rapport à ça. Donc voilà, c'est assez large pour donner une culture générale assez large. Maintenant, si vous voulez par exemple être auteur, vous allez faire du game design, vous allez travailler des jeux, vous allez faire ce genre de choses. Et donc là, par exemple, typiquement, un game designer, je pense, a beaucoup à apprendre de faire des exercices de game développement. Et un game développeur a beaucoup à apprendre d'essayer de faire des jeux. Vous allez souvent trouver ça, c'est que des auteurs ou autrices qui vont dire « Oh là là, l'éditeur, il a saccagé mon jeu » ou « Qu'est-ce qu'il a fait ?» ou on peut parfois avoir ce genre de choses. Et inversement, vous allez entendre des éditeurs qui vont dire « Oui, mais les auteurs, on a tellement travaillé après. » Et en fait, non. Un éditeur sans un auteur ou une autrice, il ne sait absolument rien faire parce qu'il n'a pas l'idée de base. Et l'auteur ou l'autrice ont tout intérêt à avoir derrière d'autres personnes qui vont travailler le jeu, mais qui doivent apprendre à travailler en respect, en fait. En respect de la création, en disant « Ok, mon but n'est pas de changer le jeu et de trouver des meilleures idées. Mon but est, par rapport à une émotion qu'on a décidé ensemble de donner à des joueurs et des joueuses, comment est-ce qu'on va faire pour transmettre cette émotion ensemble ? Comment est-ce qu'on va trouver des choses qui font qu'on va y arriver ? Et ça, on a vraiment intérêt parce que c'est vraiment des manières de travailler très très différentes. Il y a des fois où nous, dans le développement, on s'est retrouvés perdus parce qu'on a eu des auteurs qui nous a dit « Mais faites-le en fait, terminez-le, moi je sais pas très bien. » Et en fait, c'est pas notre métier, on sait pas faire ça. On peut essayer de pointer des choses et travailler pour les changer, mais on n'est pas câblé, on pourrait le faire, hein, mais on n'est pas câblé dans notre vie de tous les jours pour inventer et changer ça, parce qu'on a du respect du jeu à la base. Et de la même manière, l'auteur, parfois, a envie de chercher des nouvelles solutions, là où nous, on va chercher à raffiner des choses, aller de manière plus petite, de faire des choses de plus subtiles, et pas simplement retrouver une autre idée. Voilà, donc c'est vraiment l'un et l'autre ont vraiment à apprendre l'un de l'autre.
Là, ce sont des cursus de 1 an.
Oui, alors, c'est bien rempli, hein.
Ouais, c'est bien rempli. Ça veut dire que ça couvre très large. Il y a peut-être des gens qui ciblent certaines parties uniquement. C'est pas quelque chose que vous proposez aujourd'hui.
Non, non. Parce que encore une fois, je ne pense pas que ce soit ce que l'industrie du jeu a besoin maintenant. Je pense qu'on a besoin, mais c'est mon sentiment, de personnes qui voient l'ensemble des métiers de la chaîne et qui vont décider en fonction de leur passion et de ce dans quoi ils sont bons, de se dire, OK, moi, c'est ça que je vais faire. Parce que c'est très fluide pour l'instant. Comme il n'y a pas d'études ou quoi, vous commencez game developer un jour et puis à un moment, vous dites, bah, tiens, je vais faire mes propres jeux. Ou bien vous faites vos propres jeux et puis on vous engage, vous dites, j'en ai marre, mon droit d'auteur, ça couvre pas, je suis content d'avoir un salaire tous les jours. Et puis à un moment, il y a une place qui se libère, vous vous retrouvez au service marketing. Et puis ça se libère, vous faites l'événementiel. Et puis un jour, vous devenez patron de la boîte. Et donc voilà, c'est vraiment comme ça. Les parcours sont comme ça en fait. Donc il faut, le mieux, c'est de savoir faire un peu tout. Et puis de savoir se diriger vers ce qu'on aime. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ont envie de travailler dans le milieu du jeu, qui disent, bah donc je vais être auteur en fait, ou autrice. Et en fait, après, comme ils ne connaissent pas les métiers de game development ou chef de projet, par exemple, qui est vraiment très très chouette, c'est vraiment, c'est comme un producteur d'une certaine manière, c'est vraiment suivre du début à la fin toute la vie du jeu, avec toutes les influences que ça peut avoir sur le marketing et tout après, choisir le thème et tout, bah, c'est génial d'être chef de projet. Et donc, c'est des choses qu'ils n'imaginent peut-être pas qui existent en fait. Donc voilà, ça permet de toucher à ça et puis savoir. Mais c'est le genre de choses qui se fait dans des écoles artistiques, pas toujours, où vraiment parfois on essaie de vous mettre dans une ligne, mais de plus en plus, il y a des écoles artistiques où on vous fait des années généralistes dans lesquelles vous allez toucher à plein de choses. Et puis après, qu'on va enlever les stéréotypes et que vous allez avoir essayé des choses différentes, vous dire « Ah ouais, mais en fait, je croyais que je voulais être réalisateur, mais j'adore créer des images et en fait, je veux plutôt être directeur photo. » Ou inversement, dire « Mais moi, j'imaginais pas que le son, le travail du son était si génial et que c'est si important, j'ai envie de faire ça, je me prends de passion. » Donc, permettre à des personnes plus jeunes ou qui ne connaissent pas tous les métiers d'essayer ça avant de choisir, c'est pas mal. Je pense qu'idéalement, les études devraient faire 2 ans, voire plus. Mais comme ce sont des études privées, et donc c'est pas l'État qui va payer, c'est les étudiants, étudiantes qui vont payer, bah, ça a un coût.
Quel coût ?
C'est 7500 euros, donc c'est un coût pour l'année. Ça comprend 800 heures de cours minimum. En plus de ça, il y a tous les travaux à la maison, les stages qui sont les festivals Essen et Cannes, des game jams, ça c'est le week-end, des soirées jeux, des choses comme ça. Mais donc c'est un cursus très rempli. Et pendant les juillet et août, il y a tout le travail sur un jeu, le jeu de fin d'année, le projet de fin d'année, qui est présenté à un projet en septembre suivant. Donc c'est vraiment une année vraiment bien remplie.
Et on ne l'a pas précisé, mais c'est en présentiel. Parce que tu parlais tout à l'heure d'un Canadien, il va venir en Belgique.
Oui, tout à fait, il va venir en Belgique. Ça implique pour lui de devoir se loger ici, de devoir... Il y a des papiers à remplir et tout ça, donc tout ça, il a préparé. Et puis il y en a d'autres qui viennent de France, et donc c'est vraiment aussi... Ben, voilà, c'est fait... Mais bon... Tous ceux qui vont faire des études à Paris, Paris ou Bruxelles, Bruxelles a l'avantage d'être plus familial et moins cher aussi. Donc c'est pas mal de faire ses études à Bruxelles, c'est une très chouette ville. Je vous invite, si vous voulez, Bruxelles, c'est pas... Voilà, que ce soit là ou dans une autre grande ville, c'est une chouette ville.
Tu parlais tout à l'heure des éditeurs qui aussi faisaient un peu le constat de ce manque, tu l'as fait toi, de ce manque de formation. Tu as eu ce retour d'autres éditeurs, justement, d'un manque de cursus spécialisant pour le métier ?
Ma grosse peur au début, quand j'ai lancé l'idée, c'est que je me suis dit, mais comment va réagir le secteur du jeu ? Qu'est-ce qu'on va dire, en fait ? Et puis, j'étais assez sûr de moi, donc je me dis, bon, j'y vais parce que je pense que c'est nécessaire. Et j'étais surpris par l'ampleur du soutien. Je savais que beaucoup de personnes pensaient que c'était nécessaire, mais là, je suis surpris de l'ampleur du soutien et du fait que, bah oui, c'est super, c'est une bonne initiative, c'est nécessaire, ça manque, c'est bon pour tout le monde, en fait. C'est un secteur qui se professionnalise, c'est un secteur qui gagne de plus en plus. C'est pas normal à un moment qu'il y ait des écoles de plein de choses et que pour faire des jeux qui est quand même très technique, on en a pour faire des livres, un jeu c'est quand même plus technique à faire qu'un livre, quoi. Je veux dire, à chaque fois, il faut le matériel change, les moules, les manières de travailler, on travaille avec la Chine, c'est à plein de niveaux, c'est difficile.
Avec cette nouvelle proposition que tu amènes sur le marché, est-ce que tu as des éditeurs qui te disent, moi j'ai un profil, il me paraît intéressant, je voudrais qu'il voit tout, je voudrais l'inscrire à l'école? Ah, est-ce que ça va jusque-là ?
Alors, je pense que les éditeurs n'ont pas encore les moyens d'engager un temps plein, de le payer toute l'année pour faire ça. J'ai des demandes par rapport à ça. Je l'étudie pour l'instant. Mais c'est, voilà, mon projet, c'est de faire une école parce que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire et de faire ça. Mais j'ai des demandes par rapport à ce genre de choses. C'est des choses qui vont venir plus tard, peut-être, sans doute. Là, je préférais m'adresser directement à des passionnés qui ont envie de rejoindre le secteur. Ce qu'on fait en parallèle aussi, c'est qu'avec un monde de jeu, on fait des semaines au chalet, donc une semaine d'atelier. Et là, ça permet à des auteurs débutants, donc qui ont déjà fait des jeux, pas spécialement édités, hein, donc ça peut être vraiment des jeux, ils font des jeux chez eux, etc., à te faire une semaine dans laquelle on va faire des petits jeux de rôle. Ils vont me présenter comme un sourceur, ce que je fais ici, hein, tous les jours. Ils vont me présenter leur proto et je vais leur donner les retours que je donnerai classiquement. Comme ça, ils voient un peu comment ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de stress, souvent, j'ai remarqué, j'étais surpris par ça aussi, parce que c'est très cool, en fait. C'est des chouettes journées, on rencontre des auteurs, on voit des jeux, on joue, c'est vraiment sympa. Et j'étais très surpris de voir le stress qu'il pouvait parfois y avoir chez eux. Et donc, de pouvoir parler de ça. Pouvoir parler des contrats. Parce qu'il y a toujours oui, mais on gagne combien, comment, qu'est-ce qu'on peut demander. Il y a cette peur. Il y a pas mal d'auteurs, d'autrices qui sont, ils ont tellement envie d'être signés, qui sont à la limite prêts à signer n'importe quoi. Et de dire, non, en fait, sans vous, l'éditeur, la maison d'édition, elle ne vaut rien. Sans idée, la maison d'édition ne vaut rien, elle est par terre. Donc, vous êtes un partenaire, il n'y a pas à lâcher quoi que ce soit, c'est une négociation entre l'idée qu'ils ont envie de développer et l'idée que vous avez faite. Et donc, ça se travaille et ça se discute normalement. Donc, on va parler de ça, on va faire des exercices de développement aussi, pour faire ce côté travail. Ils vont aussi pouvoir jouer entre eux, se montrer les prototypes, échanger beaucoup et rencontrer d'autres auteurs, autrices. Et puis, on fera des petites game jams, je leur laisse la surprise, mais des petits exercices ensemble où il va falloir créer des jeux à partir de contraintes. Moi, je crois beaucoup aux contraintes. Je pense que c'est très, très bon pour la création d'avoir des contraintes. Donc, des contraintes très, très fortes et avoir peu de temps, qui est une contrainte pour faire un jeu. On ne sait pas si ce sera publié ou pas. C'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir travailler. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer. On va beaucoup jouer. J'ai très envie de pouvoir travailler. Quelque chose que je suis en train de travailler et que j'aimerais mettre au point pour l'école, c'est une manière de goûter le jeu, en fait. Je vais essayer d'expliquer ça. C'est que je pense qu'il manque une éducation à comment aborder un jeu au niveau critique. C'est-à-dire que un jeu au niveau, je prends le vin. Voilà. Tout le monde est d'accord qu'il y a des gens qui boivent du vin et qui sont même parfois collectionneurs de bouteilles de vin, qui boivent beaucoup de vin, qui ont une belle cave avec une belle collection, etc. Mais on est tous d'accord que avoir une belle cave avec plein de bouteilles de vin et aimer des choses et des bouteilles magnifiques, ça fait pas de nous un œnologue. Tout le monde a compris que un œnologue, c'est pas la même chose. Savoir que là-dedans il y a ceci, il y a cela, etc. Ça a été sur tel coteau et tout, c'est un boulot complètement différent d'être un amateur de vin. Eh bien, je suis désolé, mais un amateur de jeux qui a une superbe collection et qui a des milliers de jeux, ce n'est pas un éditeur de jeux. Ce n'est pas non plus un expert en critique, etc., parce que c'est une autre manière d'aborder ça. On n'aborde pas ça avec son spectre à soi, mais avec un spectre professionnel d'analyse et de mise en situation par rapport à ça. Et encore, un œnologue, ça n'a rien à voir avec un producteur de vin. Un producteur de vin qui sait, tel tracteur, il fait autant de mètres, mais il y a le problème, il consomme beaucoup, etc. C'est un tout autre métier. Et ce que j'ai envie de faire, c'est pas des œnologues, c'est pas des amateurs de vin, mais c'est des producteurs de vin. Et donc, d'apprendre ce travail-là, en fait. C'est vraiment ça la différence qu'on peut concevoir pour un vin, parce qu'on sait tous qu'on nous met un verre, on dit j'aime bien, et puis on dit on est incapable de sentir s'il y a dedans ceci ou cela. Mais pour un jeu, tout le monde a un avis. Tout le monde peut dire c'est bien équilibré, c'est mal équilibré, c'est ceci. Non, en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça aussi. Et donc voilà, de sensibiliser à aborder la critique. Après, ça n'enlève pas les goûts, hein. On peut avoir ses goûts à soi, de ce qu'on aime ou pas. Mais de savoir aborder ça avec un regard plus professionnel et plus distant pour pouvoir vraiment toute sa vie avoir avec plaisir, de manière de plus en plus affinée, pouvoir aborder ça en disant c'est pas pour moi ceci, et pouvoir discuter des choix éditoriaux de manière plus éclairée que simplement c'est bête, ils auraient dû faire ça et pourquoi ils ont pas pensé à ça. Parce que parfois c'est vrai, l'éditeur a fait des bêtises, n'a pas pensé à des choses, mais à des fois oui, mais c'est pas pour vous en fait. Le jeu que vous critiquez là, il n'a pas été fait pour vous.
Il me semble que dans les tarifs de l'école, il y a une notion de partenariat avec un éditeur, c'est
le
ça
parrainage.
Parrainage,
voilà.
D'accord.
Et donc, le principe du parrainage est le suivant, c'est qu'on demande, enfin, on propose à des éditeurs, maisons d'édition, de parrainer un étudiant, une étudiante, en payant une partie des frais de scolarité qui sont de 2000 euros. Donc, ça veut dire qu'il vous resterait 5500 pour l'année à la place de 7500. Donc, ils prennent 2000 en charge. En contrepartie, ben, vous allez, c'est un petit contrat qui est fait avec eux, vous vous engagez à leur présenter en priorité pendant 2 ans les projets que vous allez faire. Ce qui est intéressant plus sans doute pour vous que pour eux, puisque en fait ça vous permet d'avoir un retour direct d'un éditeur et d'aller montrer. Il va dire ah bah oui, alors peut-être que lui tant mieux, il a de la chance dedans, il va avoir un projet à signer, il va dire c'est génial, c'est super, j'ai un projet. Mais je pense que c'est surtout beaucoup de chance pour l'étudiant ou l'étudiante de pouvoir montrer son projet, d'avoir un retour d'un éditeur par rapport à ça. Et puis aussi vous allez être pris en charge par lui pour Essen et pour Cannes. Et donc, dans l'équipe, vous allez faire quelque chose de très important. Vous allez monter des stands, démonter des stands, faire des démonstrations, parce qu'en fait, ça fait partie de tout le boulot. Monter, démonter, organiser, et puis surtout, après, faire des démonstrations, c'est capital, en fait. Et j'aimerais bien, idéalement, qu'ils puissent faire des samedis ou quoi dans des boutiques. Il y a vraiment, pour moi, un éloignement, pour avoir travaillé beaucoup en boutique, et les gens, les ludicaires pourraient vous le dire, il y a souvent un éloignement et une distance entre ce que le monde du jeu pense être la réalité et la vraie réalité en boutique. On sache que chaque boutique est différente, évidemment, il y a des clientèles et des problématiques différentes. Mais le vrai client, c'est celui qui fait que au top 1, si on regarde le groupement des boutiques ludiques, au top 1, on a Skyjo pendant toute l'année, quoi. Et donc on peut dire que machin a buzzé, machin buzz et ceci, mais en termes de vente, la réalité elle est différente. Le buzz et ce que disent les joueurs c'est quelque chose, mais la réalité économique est différente. Et donc de pouvoir être, c'est la même chose pour les démonstrations, penser que tout le monde réagit à un jeu de manière X, et puis quand on doit expliquer le jeu, dire ah ouais, ici c'est quand même un peu dur, hein, ils comprennent quand même vraiment rien de ce qu'on explique, hein. Vraiment c'est pas possible, ou bien waouh, ici le niveau est différent et tout. En fait, en côtoyant des joueurs et des joueuses, il y a les pros, on va dire, ceux qui viennent dans un festival comme ici en majorité, qui suivent l'actualité, qui écoutent le podcast. C'est un public particulier, mais c'est pas la majorité du public. Quand on est confronté à la majorité du public, on voit que nos jeux doivent être mieux expliqués, plus affinés, avec plus d'exemples, etc. C'est pas le même public, en fait. Et le public est beaucoup plus large. Et donc, ça permet de côtoyer ce public-là. Et nous, c'est un exercice à repos qu'on fait, c'est que, en festival, il y en aura un peu ici, il va y en avoir à Ludinor surtout, et on le fait ailleurs aussi. On va faire tester nos protos sur le stand ou sur des espaces de démo, et les joueurs peuvent jouer, et ça nous apprend énormément, parce que quand on teste entre nous et qu'on fait tester à d'autres professionnels, on a des retours qui ne sont pas les vrais retours d'un... on pense parfois, on travaille pendant des mois, on se dit ok, là ça tourne, ça va être super, et puis en une partie, hein, ça nous est vraiment arrivé, en une partie on se regarde, on dit ça marche pas, hein. Non ça marche pas, ok, on remballe le proto, il n'y a même rien à changer, c'est foutu, on va retravailler des mois dessus, mais ça ne va pas. En une partie on comprend que ça va pas, en fait on jouait d'une autre manière, autrement, et que ça marche pas. Et donc ça, c'est très très important d'être au contact du public pour voir exactement comment fonctionne ce qu'on espère.
Le projet qui doit être présenté par les étudiants en septembre,
oui.
Ça va ressembler à ça, justement, ça va être de présenter un projet ludique.
Oui. En fait, alors en 2 mois pour faire un jeu, ça va être court, donc ils vont commencer déjà pendant l'année à penser, à travailler, à évoluer là-dessus et à être suivis. Les 2 derniers mois, c'est des mois où ils sont intensivement dessus tous les jours. Le but, c'est pas d'avoir un truc prêt à être produit. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, y en a peut-être qui connaîtront des illustrateurs ou illustratrices qui pourront faire un truc super, et d'autres qui n'auront pas les moyens, qui vont devoir bricoler eux-mêmes ou avec Midjourney, etc. Le principe est de pouvoir montrer à un jury le jeu le plus abouti possible. On va pouvoir parler exactement de bah tiens, au niveau ergonomie ici c'est pas très clair, ta boîte elle est quand même un peu vide, enfin genre, ça c'est sans fin tout ce qu'on peut dire sur un jeu, mais de pouvoir travailler ça avec eux, quoi. Et évidemment il y aura des permanences pendant l'été où je suis là, on voit l'évolution des projets, etc.
Il y a un diplôme au bout?
Alors, je pense que je ne peux pas appeler ça en Belgique un diplôme, je dois appeler ça un certificat, puisque c'est une école privée, elle n'est pas subventionnée, etc. Donc il n'y a pas de... Oui, il y a un certificat ou un diplôme, mais qui ne vaut que rien, puisque en fait déjà les éditeurs normalement vous en demanderont pas, puisque ça existe pas. Enfin, peut-être qu'après, si l'école ça fonctionne, ils vous diront est-ce que tu as fait telle école ou pas, ça. Mais là pour l'instant ça se demande pas, et mais ça ne sera pas, comme c'est une école privée, c'est pas, ça vous donnera pas un meilleur chômage ou quoi que ce soit. Donc ça Voilà.
Un certificat d'avoir suivi
le cursus.
C'est ça.
Voilà. Vous avez suivi le cursus. Okay. Et que, bah, si à un moment ça vaut quelque chose, de savoir que vous avez autant de pourcents ou pas, c'est mieux ou moins bien. En sachant aussi que, bon, ça je ne l'ai pas encore trop expliqué, mais que normalement dans ce genre d'école, quand je me suis renseigné, donc dans des écoles, moi j'ai fait une école dans ce genre-là, mais en maquillage, ce qui se passe, c'est que c'est du bouche à oreille. C'est-à-dire que très vite, à un moment, les éditeurs disent je dois engager quelqu'un, est-ce que tu as quelqu'un de super qui est sorti dernièrement? Je dis ok. Donc évidemment, celui qui a fait 80 ou 90%, je vais plus le conseiller que celui qui est pas venu beaucoup, qui a pas travaillé énormément et son jeu était pas terrible. Donc oui, c'est important en fait, parce que ce que vous allez faire, ça vous sert de book d'une certaine manière. Et c'est clair que des élèves brillants, si on me demande, ben, c'est plutôt ceux-là que je vais renseigner, quoi. Donc oui, c'est plutôt là-dedans que ça va jouer plus qu'un bout de papier.
Ça sera un diplôme plutôt reconnu par la profession presque qu'un vrai diplôme d'État.
Bah, ce serait une réussite pour moi que ce soit reconnu, ça serait très très bien, mais voilà. Enfin, le mieux pour moi, c'est qu'ils trouvent de l'emploi en fait. Ce qui est le plus important pour moi après, c'est qu'après la formation, ça les aide et qu'on puisse dire, bah voilà, autant de pourcents d'élèves travaillent dans le jeu et tout, ça c'est la plus grande réussite.
Toi-même, tu vas donner beaucoup de cours, hein, en plus de tes intervenants.
J'en ai déjà cité pas mal, il faut aller voir sur le site, il y en a plus d'une trentaine. C'était une surprise aussi, c'est que j'ai demandé à une partie de mon carnet d'adresses de gens que j'estimais en disant bah, « Tiens, je vais commencer par une première partie, leur demander, et puis il y en a quelques-uns qui vont accepter, beaucoup qui vont refuser, et puis petit à petit, je demanderai à d'autres. » Et puis en fait, j'ai eu que des oui. Et donc je me suis retrouvé embêté parce qu'il y a plein de gens que j'avais envie d'inviter, mais que c'est voilà, je vais pas faire 10 personnes par semaine, ça n'a pas de sens. Je voulais une personne par semaine, et je suis déjà à plus qu'une personne par semaine. Et donc voilà, les années suivantes, ça va changer. J'ai déjà des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices que j'ai envie d'avoir les autres années, et donc comme ça, on changera chaque année. J'ai oublié ta question.
Eh ben que toi, tu vas donner oui. Énormément de cours.
Donc moi, je vais m'occuper principalement de tout ce qui est culture ludique et de tout ce qui est édition, développement et ces choses-là. Donc c'est beaucoup d'exercices aussi. Hein. C'est beaucoup faire travailler, faire essayer. Au début, je m'étais dit donc je vais organiser comme ça et puis je leur explique les règles du jeu. Et puis je dis non, c'est eux qui vont lire les règles du jeu, qui vont les expliquer parce que lire des règles du jeu et transmettre des règles du jeu, ça fait partie du boulot. Donc il y a beaucoup de choses. Je me dis je vais faire et puis je dis ah ben non, en fait c'est à eux que je vais faire. Voilà. Donc tout ce qui est coordination par rapport à ça, c'est moi qui vais le faire, oui.
Tu nous disais tout à l'heure que tu allais quitter Repos Prod pour te consacrer complètement à l'école qui s'ouvre. Et tu étais dans le sourcing, donc j'imagine avec un carnet d'adresses extraordinaire. Est-ce que tu crains pas de te refermer de ce monde ludique aujourd'hui que tu côtoies très largement?
J'espère que non. J'espère que je serai toujours invité et apprécié par les gens que j'apprécie. J'espère que ça changera pas. En tout cas, c'est pas vers ça que ça semble aller. Non, parce que je pense vraiment qu'il y a une nécessité, donc que c'est chouette par rapport à ça. Moi, personnellement, j'ai aussi envie, et ça, c'était pas possible à Repos Production, donc contractuellement, de créer des jeux. Donc, j'ai vraiment une envie de créer des jeux par rapport à ça. Et donc, je m'éclatais dans le développement, mais à un moment, c'est gai de venir avec ses propres idées et de pouvoir se côtoyer à ça parce que c'est difficile et j'aime bien ce qui est difficile aussi. Donc voilà, ça c'était une envie aussi par rapport à moi. C'est un changement de vie.
Ouais,
j'ai pas trop peur.
Oui, qui va te donner d'autres libertés en effet.
J'ai qu'une vie, hein. Vous aussi, je veux pas vous spoiler, mais donc autant.
Profitons-en.
Oui, c'est ça, profitons-en, faisons des choses différentes. C'est pour faire la même chose toute sa vie. Je sais pas, enfin, moi c'est pas ma philosophie. Hein.
Très bien.
Merci
beaucoup pour cette interview.
Ben, merci à vous.
Donc
si on a
des auditeurs intéressés, les inscriptions sont ouvertes.
Oui.
Sur boardgamecampus.com.
Boardgamecampus.com, sinon ouais, okay. Une petite recherche et vous trouverez. Là, vous avez le programme, il y a tout sur le site. Et sinon, un petit contact et je réponds. De toute façon, avant de s'inscrire, on fait un entretien, si possible en physique, mais sinon, on le fait en visio pour vraiment pouvoir échanger, discuter. Moi, ce qui est important aussi, c'est que d'avoir des personnes motivées. Donc, j'ai envie d'avoir des personnes qui ont envie de le faire vraiment. Voilà, c'est plus agréable quand tout le monde a envie de faire des jeux que de faire ça pour faire plaisir à papa et maman parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre de sa vie.
Ça marche.
C'est sûr. Est-ce que tu veux rajouter autre chose?
Merci, c'était super.
Oui, c'est chouette. C'est super intéressant. Merci à toi.
Merci à vous.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un I et jeu avec un X. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.